Bonjour à tous et à toutes. Il est 18h et tout de suite ces premières pages sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai.
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là.
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h, sur Radio Campus Paris. Dans ce 16e épisode, l'autobiographie est à nouveau à l'honneur avec Les années de Annie Ernaux. Lorsqu'une sexagénaire s'attaque au long récit de sa vie, l'intime rencontre le collectif, donnant naissance à une nouvelle forme d'autobiographie. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 16e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laisse-le encore un peu faire l'enfant.
Je suis de nature nostalgique. Loin d'être adepte du « c'était mieux avant », j'ai toujours été fascinée par les récits de vie passée. Une réalité si lointaine qu'elle semble appartenir à la fiction. Lorsque, comme moi, on est à la fin des années 90, on transite entre deux mondes. Si j'ai grandi à l'ère du numérique, de la mondialisation, de l'instantané, il arrive encore à mes parents de faire des comparaisons francs et euros. Mon frère a grandi sans smartphone et mes grands-parents ont vécu la guerre et un monde sans Internet. Depuis petite, je me prends de passion pour ce décalage générationnel. Toujours en quête de l'album photo le plus ancien, de l'anecdote la plus originale, d'un indice, d'une information nouvelle pour entrevoir ses enfances, ses quotidiens si éloignés. Cette curiosité me vaut de longues conversations avec mes grands-parents, qui à eux quatre ont des parcours de vie tout à fait différents et passionnants. Je m'abreuve de ces récits comme d'un roman. J'imagine les univers, les odeurs, les goûts, les vêtements. Sans grande surprise, je dois à cette singulière passion mon engouement pour l'histoire et mon parcours universitaire. C'est à la fac que je découvre l'intellectualisation de ces parcours de vie, ordinaires, certes, mais qui n'en sont pas moins riches et porteurs de connaissances cruciales pour comprendre cette période. Bon, on s'approche ici de notions plus sociologiques. Dans les faits, l'intérêt de poser toutes ces questions permet surtout d'y voir plus clair sur nos enjeux contemporains et sur ce que nous sommes aujourd'hui. Inutile d'idéaliser ou de diaboliser les dires, l'idée est d'écouter et d'en tirer des leçons. L'ouvrage d'aujourd'hui pousse ce concept à son paroxysme. Prenant la forme d'une autobiographie collective, notre autrice inscrit sa vie dans un discours plus large et se fait le porte-voix d'une classe sociale, d'une génération tout entière. L'épisode du jour est dédié au roman « Les années » de Annie Ernaux. Bon, je vous entends venir d'ici, ça commence à bien faire les autobiographies. Entre Wilde, Eddie Bellegueule et Persepolis, on va commencer à faire le tour de la question. Mais en réalité, j'ai choisi ces ouvrages car ils offraient chacun un support unique et une approche tout à fait novatrice du genre littéraire. Wilde se base sur un épisode de vie relativement court et Satrapi se démarque par son choix de support. L'œuvre d'Édouard Louis est sûrement celle qui se rapproche le plus du roman d'aujourd'hui. J'ai d'ailleurs évoqué notre autrice dans l'épisode qui lui était dédié. Toutefois, nos auteurs conservent des divergences. Tous deux ne partagent pas le même genre, la même génération et surtout la même classe sociale, offrant deux histoires tout à fait différentes. De plus, si Édouard Louis se concentre sur son parcours individuel, préférant une narration à la première personne, Annie Ernaux est loin du récit auto-centré. Pour citer la quatrième de couverture, cette dernière opte pour une forme nouvelle d'autobiographie, impersonnelle et collective. Concept que je développerai par la suite. Avant toute chose, je me dois de vous en dire un peu plus sur notre autrice. Née Duchesne, Annie Ernaux voit le jour en 1940, en Seine-Maritime. Écrivaine et professeure de français, elle grandit dans un milieu modeste. Ses parents sont ouvriers, puis exploitants, avant de devenir propriétaire d'un café-épicerie à Yvetot. Engagée politiquement à gauche, ses prises de position sont nombreuses. Elle s'oppose entre autres à la réforme des retraites, apporte son soutien au mouvement Gilets jaunes et s'investit plus largement dans la lutte contre les discriminations. L'autrice use de ses romans, essentiellement inspirés de ses expériences personnelles, pour mettre en avant son engagement militant et notamment son féminisme. Qualifiant ce genre littéraire d'auto-sociobiographie, cette dernière est portée par une approche sociologique. Elle pose sur le papier les étapes marquantes de sa vie, les inscrivant dans un contexte plus large, mettant son expérience au service de la lutte sociale. Ernaud prône l'émancipation par l'écriture et souhaite rendre ainsi justice à sa classe et à son genre. Elle est âgée de 68 ans lorsque Les années paraissent aux éditions Gallimard. Ce n'est alors pas le premier roman autobiographique de l'écrivaine qui en fait sa marque de fabrique. Ce fut le cas notamment de son premier ouvrage, Les armoires vides, paru en 1974, ou encore de La place, pour lequel elle recevra le prix Renaudot en 1984. Documentaire, cinéma, théâtre, le travail d'Annie Ernaux ne cesse d'inspirer et occupe une place centrale dans la littérature française. Elle reçoit finalement comme ultime distinction le prix Nobel littéraire en 2022, saluant ainsi l'ensemble de son œuvre pour, je cite le jury, « le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ». Les années, ça parle de quoi ? Le récit se situe en France entre les années 1941 et 2006, correspondant à une grande partie de la vie de notre autrice. Cette dernière nous dépeint toujours à la quatrième personne les différentes époques de sa vie, liant des moments plus intimes, mariage, naissance, décès, à un contexte politique, social et culturel, inscrivant son témoignage dans un ensemble plus vaste. Bon, après, n'y cherchez pas l'animation d'un roman. Le style d'Ernaux est connu pour sa simplicité, un ensemble de concepts qui se suivent, dénués de tout artifice. Si l'écriture des années est à mon goût un peu plus complexe que dans son livre La place, cela donne malgré tout l'impression d'une longue liste, une enfilade d'idées partageant certes des temporalités et des thématiques similaires, mais implique surtout un grand nombre d'informations à absorber. D'ailleurs, cette vaste liste ne s'arrête jamais vraiment. L'ouvrage n'est pas divisé en chapitres, mais en mini-paragraphes aux tailles variables. Pour illustrer cette vaste fresque, l'écrivaine décrit régulièrement des photographies personnelles qui se recoupent avec ses différentes périodes. La proximité avec ses archives n'est pas évidente tout de suite. Ces traces du passé forment un lien entre le « nous » de la narration et un témoignage plus intime. À la manière d'une vaste production historique et sociologique, Ernaux dépeint la France qu'elle a connue, ses habitants, ses événements marquants, ses mutations sociales, culturelles, économiques et politiques. Si l'œuvre de l'écrivaine n'a pas toujours fait l'unanimité, Les années est un triomphe et marque un tournant dans la carrière de l'autrice. Offrant un portrait de la nation unique et d'apparence assez complet, le résultat n'en est pas moins déroutant. Quand on y pense, 50 années, comprises dans un roman de 250 pages, ça relèverait presque de l'indigestion. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Aussi curieux que cela puisse paraître, la plume si singulière de Ernaux m'a vite accrochée. J'étais comme hypnotisée par cet enchaînement de faits, ce large listing historique. Pourtant, je dois l'avouer, en lisant les premières pages, j'étais perplexe. Je comprends vite que l'autrice ne me facilitera pas la lecture. En effet, cette dernière revendique ce qu'elle appelle une écriture neutre, je cite, « sans jugement, sans métaphore, sans comparaison romanesque ». Le roman offre alors un récit assez pur, simple, qui va droit au but. Style que j'ai pu retrouver par certains aspects dans l'œuvre d'Édouard Louis. En revanche, simple ne veut pas dire dénué de toute émotion. L'écrivaine glisse régulièrement des sous-entendus discrets mais bien placés, rappelant son implication personnelle et un militantisme souvent teinté d'amertume. On est parfois si étonné de surprendre des bribes de témoignages intimes que l'on est vite ému à la lecture. D'autant qu'il se retrouve vite noyé dans ce flot constant d'informations. Car il faut le dire, notre écrivaine n'est pas avare de détails. Des marques alimentaires aux stars en couverture People, en passant par les chansons et émissions du moment, lire ce livre s'est plongé à 200% dans une expérience immersive folle. Au-delà du matériel, l'autrice dépeint à merveille les bruits du quotidien, les expressions typiques, les odeurs en cuisine le samedi midi. C'est comme si nous tournions les pages de l'album photo d'une famille d'inconnus, pour nous découvrir finalement une multitude de points communs. Elle évoque notamment le rapport intergénérationnel avec ses parents, ses enfants, puis petits-enfants. L'évolution de ses idées selon son âge, sa classe, l'autrice étant elle-même transfuge. J'ai surtout été marquée par un passage dans lequel cette dernière décrit son décalage avec ses enfants, alors âgés de 30 ans. En posant des mots sur cette rupture, elle met en valeur ce lien d'une nature tout à fait nouvelle, entre la transmission et une curiosité distanciée. C'est là tout l'intérêt de cette balance que fait Arnaud avec brio entre l'intime et le collectif. User de son expérience pour mettre en lumière des faits sociétaux, pour mieux comprendre et rassembler. Son rapport à la nation est particulièrement intéressant. Je ne suis pas spécialement enclin à revendiquer mon patriotisme. Comme beaucoup d'individus appartenant à ma génération, je m'inscris dans des dimensions tout à fait nouvelles, qui transcendent les limites nationales. Avec d'un côté une inscription plus vaste, propre au contexte de mondialisation, aux réseaux sociaux dans lequel j'ai grandi, et de l'autre un désir de se rattacher à des sphères plus intimes, famille, amis, ma ville, mon quartier, mon immeuble. L'autrice décrit très bien ces contradictions patriotiques, selon l'époque, notre classe sociale, notre culture, évoquant des périodes de flottement ou d'engouement collectif, les grandes manifestations et les retours sur soi. Le nous de Arnaud a ça de marquant que l'on se raccroche vite à ses dires. Et si on ne se sent pas directement concerné, on imagine facilement nos parents, nos grands-parents. On raccroche les wagons entre les années de naissance et les événements qui rythment le récit. En réalité, la force de cet écrit réside dans sa manière de dénoncer par le simple pouvoir descriptif. Il n'est pas question d'argumenter ou de convaincre, mais simplement de présenter des faits, de poser un décor. Certains passages sont écœurants de détails, mais livrent ainsi des informations précieuses sur les dysfonctionnements de l'époque. Les discriminations, la société de consommation, le basculement technologique, la crise économique. L'écrivaine enchaîne habilement les mini-descriptions. Les noms, les lieux, les dates, laissant voir sans même poser le moindre jugement toutes les contradictions, bizarreries, honte et gloire de cette société dans laquelle elle évolue collectivement. En revanche, si certaines anecdotes peuvent être des souvenirs partagés par une majorité de Français, ce n'est pas le cas de tout le récit. Comme Édouard Louis, Arnaud est témoin du milieu dans lequel elle évolue, témoin d'une génération et du genre auquel elle appartient. Livrant une vision poignante, mais surtout très personnelle, de la France de ces années. C'était un extrait de La Dispute de Yann Tiersen. Titre issu de la bande originale du film Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour porte sur Les années de Annie Ernaux. Je suis marquée à la lecture de constater à quel point, malgré les deux générations qui nous séparent, je retrouve ponctuellement des événements communs. Les attentats du 11 septembre, ceux de la rue de Rennes, de la station Saint-Michel, font tristement écho à ceux du Bataclan et de Charlie Hebdo, médias que l'autrice évoque d'ailleurs régulièrement. Les grands mouvements de 68, ceux de 2002 contre le Front National, rappellent également les contestations récentes et une force des rues qui ne s'essouffle pas. Avec ce récit collectif, Ernaux décrit à merveille cette foule et les limites de ce sentiment d'appartenance. Face à cette période de trouble, en hommage au mouvement de contestation qui gronde et ne dort jamais, et pour remercier notre Nobel pour cette œuvre engagée et nécessaire, j'aimerais clôturer cet épisode sur un passage qui m'a particulièrement marqué, rappelant par la même occasion que oui, l'histoire se répète et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à lutter. Le monde des marchandises, des spots publicitaires et celui des discours politiques coexistaient à la télévision. Ils ne se rencontraient pas. Dans l'un régnait la facilité et l'invitation au plaisir, dans l'autre les sacrifices et les contraintes. Des formules de plus en plus menaçantes, la mondialisation des échanges, la nécessaire modernisation. Nous avions mis du temps à traduire en images de la vie quotidienne le plan Juppé et comprendre qu'on nous entubait. Mais on en avait assez de cette façon hautaine et condescendante de nous reprocher de ne pas être pragmatiques. La retraite et la sécu, c'était la dernière sollicitude de l'État, une sorte de point fixe dans tout ce qui emportait. Les cheminots et les postiers cessaient le travail. Les profs, tous les services publics. Des embouteillages inextricables étoilaient Paris et les grandes villes. Des gens achetaient des vélos pour circuler, marchaient en colonne hâtive dans la nuit de décembre. C'était une grève d'hiver et d'adultes, sombre et calme, sans violence ni exaltation. On retrouvait le temps 10 juin des grandes grèves, avec le retard comme règle, la débrouille et les organisations provisoires. Il y avait de la mythologie dans les corps et les gestes. Marcher obstinément dans Paris sans métro ni bus était un acte de mémoire. À la gare de Lyon, la voix de Pierre Bourdieu unissait 68 à 95. On recroyait. Des mots nouveaux galvanisaient calmement. Un autre monde, faire l'Europe sociale. Les gens répétaient qu'ils ne s'étaient pas parlé ainsi depuis des années, s'en émerveillaient. La grève était parole, plus qu'action. Juppé retirait son plan. Noël arrivait. Il fallait revenir à soi et aux cadeaux, à la patience. Les journées de décembre se fermaient, elles ne formaient pas un récit. Il restait juste l'image d'une foule crapahutant dans la nuit. On ne savait pas si c'était la dernière grande grève du siècle ou le début d'un réveil. Pour nous, quelque chose commençait. On se rappelait les vers d'Éluard. Il n'était que quelques-uns sur toute la terre. Chacun se croyait seul. Ils furent foule, soudain. Pour aller plus loin, je recommande Pierre Bourdieu, « L'insoumission en héritage », essai d'Édouard Louis, paru en 2013, l'album « Jeunesse, quand mamie avait mon âge » de Bonotto et Lasserre, sorti en 2008, et enfin « Fille », roman de Camille Lorenz, paru en 2020. C'était le 16e épisode de Première Page, rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.